De lundi à vendredi, 18h15 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose une émission économique pour connaître les tendances du marché, les évolutions du cours de devises, les entreprises qui s'installent et leur impact sur la vie sociale. Suivez Écho d'économie. Écho d'économie, c'est l'ensemble des actes à portée économique du pays ainsi que leur effet sur la vie quotidienne. Écho d'économie, lundi à vendredi, 18h15 heure de Kinshasa.
Voilà, vous savez, aujourd'hui on va parler de l'encadrement des enfants, des élèves pendant la période des examens. Marcel, je crois que dans plusieurs écoles actuellement, les enfants passent leurs examens. Vous savez, cette période des examens est une période délicate pour certains enfants. Il faut une attention particulière sur les notes et aussi bien organiser le temps pour passer avec succès ces épreuves. Évidemment, tout cela doit être fait avec le concours et le contrôle d'un adulte. Mais dans bien le cas, certains parents ne savent pas quoi faire concrètement. Alors, comment bien encadrer son enfant pendant la période des examens? Jean-Paul Yaouidi, expert en éducation, est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-nous comment encadrer les élèves pendant cette période.
Merci beaucoup pour votre invitation pour cette émission focalisée essentiellement sur les parents. Vous savez, je ne cesse de le dire que les parents doivent toujours fournir un effort d'apprendre à être parents. Et s'il ne suffit pas d'avoir un enfant pour se faire appeler papa ou se faire appeler maman, il faut nécessairement apprendre à être papa et apprendre à être maman. Et pour ce qui concerne la scolarité des enfants, ceux qui sont au niveau de l'école primaire, les parents pêchent toujours au niveau de la perception que chacun a de son enfant. Si le parent a de son enfant la perception qu'il est grand, alors il a un comportement à tenir vis-à-vis de cet enfant. C'est-à-dire considérer que l'enfant, il va se débrouiller seul, il y a personne qui va s'occuper de lui puisqu'il est assez grand. Ou ça, que si le parent peut considérer que bon, cet enfant est petit, ben, il faut toujours être derrière lui. Il faut l'empêcher parfois à exercer tel objet, telle activité, tel mouvement.
Oui.
Il faut nécessairement qu'il soit enfermé dans la chambre. Alors là, vous voyez, c'est aussi une perception qui est vraiment erronée et qui est irréaliste vis-à-vis de l'enfant. Il y a aussi à considérer, bon, écoutez, les parents disent que nous avons étudié à une certaine époque, voilà de quelle manière nous nous comportions. Maintenant, les enfants actuels, bon, ils ont notre programme, moi je ne sais pas suivre ce programme-là. Vous voyez, cette perception-là influence le comportement des parents vis-à-vis de l'enfant. Mais pour ce qui concerne l'examen,
oui.
Ça dépend. Lorsqu'on est à l'école primaire comme à l'école secondaire, il y a une différence dans le comportement des parents. Parce que au niveau de l'école primaire, l'enfant, en fait, la compréhension des cours et l'assimilation des matières, des leçons, se réalise au sein de la classe. Donc, tout au niveau de la classe. Des fois, à l'époque, vous voyez, l'enfant ne pouvait pas laisser tout au niveau de la classe, son stylo, ses objets classiques, il ne rentre à la maison que sans ces objets classiques.
Oui.
Donc, tout se réalise au niveau de l'école. Alors, il faut nécessairement que le parent puisse ne pas confier la responsabilité à la bonne. Donc, en fait, c'est comme une surveillance. C'est comme quelqu'un qui est en train de surveiller un bâtiment. Donc, l'enfant ne doit pas être un bâtiment où l'on considère seulement sa présence physique. Mais on doit le considérer dans son évolution. Et son évolution demande à ce que le parent puisse savoir qu'est-ce qu'il fait maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire dans le futur, et comment dois-je faire pour réellement que je puisse me situer dans les limites de l'action que je dois exercer sur lui,
oui.
Pour cet enfant de l'école primaire. Mais au niveau de l'école secondaire, vous voyez, il y a une certaine évolution, puisque déjà nous disons en psychologie que l'enfant connaît le classement de l'intelligence générale à l'intelligence spécifique. L'enfant doit se déterminer vis-à-vis de tel professeur qui a suivi tel ou tel cours pour dire que moi, je prends celui-là comme modèle. Alors là aussi, ça dépend de l'action aussi de l'enseignant sur son élève,
oui.
De façon à ce que celui-là puisse dire, écoutez, je vais devenir comme cet enseignant, il doit se comporter en conséquence en fonction de la préparation de la session. Vous voyez,
oui.
Il y a un stimuli important en ce qui concerne cet aspect des choses de l'enseignant pris comme modèle.
Oui, alors il y a
aussi,
oui.
À son niveau.
Oui.
Vraiment à son niveau, au niveau de la maison.
Oui.
C'est-à-dire qu'il doit considérer que cet enfant n'est pas un adulte. Donc, il est, ouais. Au niveau de l'école secondaire, c'est un adolescent et maître en croissance.
Il
connaît beaucoup de crises,
oui.
Des crises libertaires ou des crises d'adolescence, des crises d'identité, où il y a beaucoup plus une certaine opposition vis-à-vis de toute figure d'autorité. Et l'enfant doit beaucoup plus agir en termes de collaboration, de coopération, solliciter, veiller à ce que l'enfant, de commun accord, qu'il arrive à ses maîtres pour considérer qu'il a un examen à préparer pour sa réussite future.
Alors, Jean-Paul Yaoui dit, certains enfants préfèrent aller étudier en groupe, avec des copains, avec les copines. Ils disent que de cette façon, ils arrivent à assimiler très bien, à comprendre rapidement certains cours, là où il y avait des zones d'ombre. Est-ce que c'est une bonne façon de préparer les examens?
Oui, c'est une bonne façon. Vous savez que les études, ne peuvent pas seulement toujours se réaliser en cinq mois. Hein, parce que vous savez, le maître est vraiment à un certain niveau au-dessus, et l'enfant peut éprouver des difficultés à comprendre son enseignant, mais il a de la facilité à comprendre son ami. Alors, lorsque un ami présente une certaine facilité dans la compréhension d'un cours, un autre enfant, un autre élève, le condisciple, il perçoit cela, il se dit, écoutez, je vais me référer à lui. C'est pour cela qu'il peut se retrouver dans un cadre où ils sont à deux ou à trois pour discuter un peu, bénéficier de l'autre. Mais si les choses doivent se réaliser dans un contexte de désordre, c'est là où c'est ce qu'on empêche, c'est ce qu'on refuse. Mais si ça doit se réaliser vraiment dans un but où l'on veut profiter des connaissances de l'autre, ça c'est à encourager. Et il ne faut pas toujours que l'enfant soit seul. Vous savez qu'un enfant qui vit aussi dans une famille fermée,
oui.
Et il y a toute une éducation pour être en train de vivre sur lui de façon à ce qu'il puisse manifester une certaine ouverture vis-à-vis des autres. Mais l'enfant doit nécessairement, on doit lui permettre une certaine ouverture, mais on doit choisir avec qui il doit se lier.
Alors si, par exemple, le parent arrive à imposer des heures d'études, ben voilà, comme c'est la période des examens, je vais pouvoir étudier de telle heure à telle heure, et puis plus question des sorties, plus question de la télé. Alors, c'est aussi une bonne façon d'encadrer l'enfant.
Pour vous savez, l'enfant, du point de vue de la psychologie, c'est de mettre le plaisir. Il veut toujours satisfaire ses désirs. Il veut toujours éprouver du plaisir à tout ce qu'il doit faire. Mais si on doit le laisser comme ça dans ce contexte-là de la satisfaction de ses désirs, vous voyez que tout doit briller du côté de l'enfant. C'est pour cela qu'il y a une certaine réglementation pour empêcher les excès de l'enfant. Mais il faut aussi, c'est ce que je suis en train de dire aux parents, que cet enfant, lorsqu'il est adolescent, il n'a pas une éducation par contrainte. Il faut nécessairement travailler son intérieur. Mais si vous dites à un enfant, désormais je veux que tu puisses te trouver sur la table à 18h pour étudier, mais l'enfant peut se trouver sur la table à 18h, mais devant ses cahiers, mais en réalité il n'étudie pas. Il est en train seulement de faire plaisir à son parent. Mais si vous avez travaillé son intérieur, et lui-même il peut se dire, non, je dois réellement, quand je le mets sur la table, c'est pour étudier. Donc, il faut beaucoup plus une certaine collaboration lorsque l'enfant est adolescent au niveau de l'école secondaire.
Et comment travailler son intérieur?
C'est-à-dire amener l'enfant à connaître d'abord l'importance de l'école. Pourquoi on l'inscrit à l'école? Et cette école-là, il y a des conditions. Il faut payer des frais scolaires. Et ces frais scolaires, c'est budgétisé. Et lorsqu'on l'envoie à l'école, c'est pour connaître plus. Et c'est alors qu'il sera responsable, il sera utile, et à lui-même et à la société. L'école est là pour permettre à ce qu'on puisse résoudre les problèmes de la société. Si nous voulons que notre société puisse évoluer, il faut nécessairement qu'il y ait cette école. Et dans cette école, il doit être vous que l'on voit, pour que vous puissiez vous y rendre, de façon à permettre à ce qu'il y ait de l'espoir pour l'avenir de notre société. Et là, l'enfant est en train de comprendre, il est en train de saisir. Mais si, en fait, vous ne lui dites rien sur l'école, vous cherchez à vous imposer sur lui, à ce moment-là, il ne comprend pas, ça va l'enfant. Il doit s'engager que pour des choses qu'il comprend. S'il ne comprend rien, alors tout ce qu'il peut faire manifester comme comportement, c'est pour faire plaisir. Or, les parents ne doivent pas vouloir à ce que son enfant se comporte par jeté. C'est lui, le parent, il lui a demandé d'exécuter tel et tel test, il le fait. Mais il faut que l'enfant le fasse avec conviction. Il sache pourquoi moi je suis en train de le faire. Pourquoi il va étudier. Il y a examen. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps?
Voilà.
Tout ce que l'enfant doit, les parents doivent lui apprendre pour que l'enfant lui-même agisse avec détermination.
Nous avons des auditeurs en ligne, Soukinyembo de Kalima et Marius nous appellent de Kindu. Soupi, bonjour.
Oui, très bonjour, je dis Daniel Tachaman. Nous passons aujourd'hui la Jota. Oh. On a retrouvé notre signal de la radio Kassi.
Ah, ben c'est une très bonne chose, Sophie. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai des choses seulement à dire. La première est celle-ci. Par exemple, aux parents qui ont l'habitude de payer l'argent bien les frais de l'école, au cas ou bien au moment de l'examen, même si l'enfant a raté 2 jours ou 3 jours, qu'est-ce que notre conseiller va dire? Et si l'enfant est sorti à l'école, vous verrez, les parents commencent à l'envoyer, de lui commander beaucoup de choses à faire, par exemple, de repasser les habits, d'épiler les rues, de couper les feuilles qui sont autour d'une bout de leur parcelle. Tout ce travail-là me permet à ce que l'enfant puisse quand même prendre ses cahiers pour étudier. Le second problème aussi, pour terminer, monsieur, j'ai dit Daniel Kachama, par exemple, un élève qui a aimé les filles, et disons la fille de son enseignant, qu'est-ce que cet enseignant va faire avec cet élève au moment de l'examen? Voilà, c'était
ah le bon?
Je vous remercie.
Oui, Soupi, c'est quand même curieux. Vous avez des cas comme ça, un élève qui a aimé la femme de son enseignant. Soupi?
Oui.
Est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des cas comme ça, un élève qui va aimer la femme de son enseignant?
Oui, moi j'ai vu déjà de certains élèves, ce n'est pas la femme de son enseignant, la femme de la maison, non. Vous savez, à l'école, les enseignants commencent à prendre certaines filles pour être leur femme, donc de les servir seulement au moment du besoin. Mais il y a aussi des élèves qui ont l'habitude d'aimer cette fille. Là, et il y a la conflit qui doit être entre l'enseignant et son élève, en fait.
Merci bien. Marius Bekindou, bonjour.
Bonjour, la radio Kassi.
Bonjour,
bonjour aussi à l'invité.
Oui.
Maintenant, moi, étant que tu es éducateur, avec les soucis d'éducateur, j'ai l'enfant à la maison. Maintenant, parce que le complément de l'éducation doit se faire aussi à partir de la maison.
Oui.
Et l'enfant, quand il arrive à la maison, je le soumets souvent au travail. Maintenant, quand on le soumet au travail, vous allez remarquer s'il faut, par exemple, je donne par exemple un exercice de calcul, cet enfant n'arrive pas à travailler bien, mais tout son souci est tourné vers les jeux. Vraiment, je ne connais pas comment procéder à un vrai encadrement d'un tel enfant. La seconde question, c'est ce que vous voyez aussi, c'est qui vraiment décourage souvent cet encadrement. Vous allez remarquer même au niveau des écoles qu'il y a vraiment des enseignants. Quand l'enfant vraiment ne se donne pas vraiment, il ne se passe pas au travail. L'enseignant doit vraiment connaître le fond de chaque élève. Maintenant, ici, ce qui est remarquable, c'est de voir la plupart de nos écoles, les enseignants, si pas les enseignants, commencent à exiger aux enfants de l'argent, et voilà, les enfants vraiment ne tiennent plus compte vraiment d'aller à l'amélioration. Vraiment, je ne sais pas comment améliorer vraiment la qualité, vraiment, et l'encadrement des enfants.
Merci, Marius. Jean-Paul Yaoudi.
Ok, merci beaucoup pour l'intervention de cet auditeur. Vous savez que nous sommes en train de parler de la préparation des examens, comment est-ce que les parents doivent s'y prendre vis-à-vis de leurs enfants qui sont en train de passer des examens. Vous voyez, et monsieur l'auditeur vient d'évoquer une réalité qui est vraiment, qui n'est pas à applaudir. Lorsque l'enseignant lui-même est en train de récolter de l'argent auprès des élèves, et l'élève, il sait très bien que, au moins, si je donne de l'argent à cet enseignant, je dois nécessairement réussir.
Oui.
Qu'est-ce qu'on doit attendre de cet enfant au niveau de la maison? Doit-il fournir un effort, même si le parent intervenait pour lui dire que tu dois étudier? On a l'environnement dans lequel il est en train d'évoluer. Ça, c'est ce que nous avons. Nous devons normalement combattre. Et qui doit combattre cela? L'État doit jeter quand même, doit considérer que l'enseignant qui est à l'école, c'est en fait, il est la lumière qui doit se situer au niveau de la montagne pour que les gens soient éclairés. Mais si le même jour est dans l'obscurité, il ne peut jamais luire au-dessus de la montagne, ça sera difficile pour que les choses aillent mieux. Ce que nous visons, c'est le changement des comportements.
Oui.
L'action du parent sur son enfant n'est efficace en ce qui concerne la préparation des examens que si l'enseignant joue le rôle qu'il faut au niveau de l'école. s'il ne joue pas ce rôle, cette action aussi au niveau de la maison ne peut que s'avérer négative. Donc tout le monde doit nécessairement considérer que nous devons changer dans notre société. Si nous ne changeons pas, nous sommes en train d'influencer négativement nos familles, nous sommes en train d'influencer négativement l'évolution de notre société, nous sommes en train d'influencer négativement l'avenir de notre jeunesse. Donc lorsque nous parlons de la préparation de la session, lorsque de la passation des examens pour les enfants, voilà une autre idée qui évoque un cas immoral. Pour dire que, mais écoutez, à l'école, vous allez trouver un enseignant en train de s'amouracher avec un élève. Et maintenant, un élève, le condisciple, lui aussi s'amourache avec ce même élève. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Voilà. Là, nous, c'est comme si nous revenons dans la situation du complexe d'Édipe, où un enfant est en train de manifester des désirs sexuels, de l'amour vis-à-vis de sa mère, et manifester de la haine vis-à-vis de son père. Il ne peut y avoir des rivalités. Et là, il y a rivalité, il y a combat. Et lorsqu'il y a combat, quelqu'un doit échouer. Donc, ce ne sont pas des choses que nous devons nécessairement encourager, mais ce qu'il faut, il faut que chaque éducateur puisse comprendre qu'il doit jouer le rôle de l'éducateur.
Voilà.
Permettre à ce que les choses puissent aller, il faut que les choses puissent se manifester, se réaliser dans un contexte de compétition, dans un contexte de réussite.
Alors, vous avez dit tout à l'heure, professeur Yaoudi, que pour bien encadrer les élèves pendant cette période, il faut d'abord commencer par travailler l'intérieur de l'élève, de faire comprendre l'importance de l'école. À ce moment-là, il sera consciencieux et il va bien préparer ses examens. Et il faut collaborer avec lui au lieu de lui imposer certaines règles. Mais Marius est un encadreur et il dit qu'il est, je crois, enseignant. Et de temps en temps, il passe du temps en train de travailler avec son enfant, de soumettre quelques exercices de mathématiques, maths. Il dit que son enfant a toujours, ses pensées sont toujours tournées vers les jeux. Et son enfant veut tout le temps jouer. Alors que qu'est-ce qu'il veut faire dans ces cas?
Allô?
Oui, je vous écoute, professeur.
Oui, il faut aussi savoir, Marius, il parle là de quel enfant. L'enfant qui est à l'école primaire, vous savez où soit, où il est à l'école primaire, c'est beaucoup plus quelqu'un qui est assez au jeu.
Oui.
Alors, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Mais Marius ne doit pas considérer que son enfant, c'est lui. Parce que lorsqu'il doit penser que son enfant doit se comporter exactement comme lui, c'est à ce moment-là qu'il y aura conflit. Mais il faut nécessairement savoir qu'est-ce que je dois faire. Parce que vous savez, nous, à une certaine époque à l'école, la leçon s'est réalisée sous forme de comptines. Hein, on est en train d'enseigner Bijou Kaïchou, Genou, Ibu, Joujou, pour X, dans le jeu, dans les exercices là.
Oui.
Alors, il faut nécessairement trouver dans l'activité de l'enfant quelque chose sur ce qui se concerne son école pour l'influencer. Il faut nécessairement que l'enfant puisse voir que le comportement que vous manifestez à son égard, c'est pour son bien. Mais si vous avez une certaine attitude d'agressivité à son égard, à ce moment-là, l'enfant aussi va chercher à vous punir. C'est un comportement que les enfants manifestent, c'est juste pour punir les parents.
Donc, ce qu'il faut faire,
les parents s'avèrent, c'est devient encombrant. Il ne le comprend pas. Comme il ne le comprend pas, il le punit cette fois-là en faisant le contraire de ses attentes.
Alors, il faut le soumettre, le faire faire des exercices tout en jouant.
Oui, mais ça dépend si on a, si c'est par cette action que vous allez entreprendre, le résultat sera positif. Il faut situer, il faut aller dans le contexte de l'enfant. Il ne faut pas sortir l'enfant de son contexte pour l'amener dans un contexte qui sera compliqué pour lui. Il faut nécessairement le situer dans son contexte. C'est ça ce que nous disons, apprendre à être parent, apprendre à être père, apprendre à être mère. Donc, on ne peut pas agir vis-à-vis de l'enfant comme si cet enfant-là était vous, les parents.
Oui.
Et pour cela, les parents commettent beaucoup d'erreurs de considérer que lui, comme il a raté de faire la session littéraire, nécessairement son enfant doit être capable de faire la session littéraire. C'est pas ce qu'on ne situe pas l'enfant dans son contexte.
Norbert nous appelle de Kindu, Manima, bonjour. Norbert, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, j'ai dit bonjour à tous les auditeurs ainsi que bonjour à l'invité, M. Yaoudi.
Oui, quelle est votre question?
Ma question est de savoir, est presque similaire à celle que venait de poser mon professeur, et c'est Marius de Kindu.
Oui.
Vous savez, ici chez nous à Kindu, les enfants ont une culture un peu. Quand ils quittent l'école, ils jettent les objets, ils quittent au jeu. Ma question est de savoir comment encourager ou bien préparer un enfant pour préparer son examen.
Oui.
Un enfant qui n'a pas le goût de la lecture, comment lui préparer à bien.
Un enfant de l'école primaire, hein? Voilà, Norbert n'est plus en ligne. Adji nous appelle aussi de Kingu. Voilà, un coucou spécial à tous les auditeurs de Kingu qui appellent depuis le début de cette émission. Adji, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Oui, Adji, on vous écoute.
Ouais, je suis très content aujourd'hui de ce sujet parce que c'est un problème qui nous entoure et nous, les étudiants, ainsi que les écoliers, les élèves aussi de l'école secondaire.
Oui.
Ouais, nous avons, par exemple, moi, nous constatons parfois, vous allez voir, la période de préparatifs de l'examen. Bon, certains parents prennent comme la période de congé. Bon, je ne sais pas ça. Parce que vous allez voir, vous regardez, monsieur, je dis, si l'école donne à ces enfants-là le congé d'aller se préparer à l'examen. Bon, si les élèves rentrent à leur maison, certains parents renvoient leurs enfants au village parce qu'ils prennent cette période comme un congé qui n'est pas même un objectif poursuivable. Je ne sais pas ça. Ils envoient leurs enfants
au
village. Je ne sais pas, pour aller prendre du manioc, du sombé, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que notre invité pourrait dire à ces parents-là? La deuxième préoccupation est la suivante. Bon, étudier seul à la maison, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a les élèves-là qui font leur groupe d'études pendant la période de l'examen, pendant les préparatifs de l'examen? Bon, il y a aussi ceux-là qui étudient à leur maison, en craignant, par exemple, en craignant peut-être en étudiant ensemble avec ses amis, il peut y avoir dans ce groupe-là des sorciers, des ceci, de cela, je ne sais pas, des raisons de ces enfants-là. Bon, ils ont cette habitude-là de ne pas étudier avec ses
amis. Voilà, ils préfèrent aller étudier seul.
En étudiant avec les amis,
oui.
Il y aura aussi des avantages peut-être. Par exemple, si vous étiez dans la salle pendant la leçon, l'enseignant enseignait, les élèves sont là. Bon, par exemple, vous n'avez pas bien entendu ou bien assimilé cette notion. Et que votre ami a bien saisi cette notion.
Oui,
en étudiant ensemble, vous pouvez s'échanger.
Si,
vous pouvez partager les idées.
Oui, Adji. Adji, l'invité a déjà répondu à cette question d'ailleurs en disant que c'est important de parfois étudier en groupe, ça permet d'éclairer certaines zones d'ombre. Alors, Jean-Paul Diaridi va répondre aux autres préoccupations.
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais répondre à la première préoccupation d'un parent qui s'étonne que son enfant ne puisse pas lire à la maison. Mais est-ce que lui-même, le parent, lit à la maison? Les enfants considèrent les parents, je vous ai dit, comme des modèles. Il faut nécessairement que le parent lui-même puisse lire. C'est alors que l'enfant fera ce que son père ou sa mère est en train de faire. Mais si même si le papa n'est pas allé à l'école ou la maman n'est pas allée à l'école, c'est tenir ne plus qu'un livre et commencer à observer et l'enfant aura l'impression que la maman ou le papa est en train de lire. C'est alors que vous le verrez lire. Il faut pas seulement condamner les enfants, dire que les enfants ne lisent pas. Est-ce que nous-mêmes, les parents, nous lisons? Voyez, c'est très très important. Il y a aussi ce que l'auditeur voulait de soulever, là pour dire que pendant le moment de préparation des examens, les enfants doivent se retrouver au village. Mais ça, c'est ce que nous appelons la complicité entre l'école et la famille. Il faut nécessairement qu'il y ait des rencontres pédagogiques pour que les parents, les enseignants et l'école puissent dire aux parents ce qu'ils doivent nécessairement faire, ce qu'ils attendent d'eux. La collaboration, lorsque les parents ne considèrent pas l'école de son enfant comme étant son école, c'est difficile qu'ils puissent agir en conséquence. Et pour cela même, lorsqu'on parle des règlements de l'école, les règlements de l'école ne doivent pas être cachés dans la paperasse. D'accord, ne doit pas se retrouver en dehors, il ne doit pas être jeté quelque part. Non, le règlement de l'école doit être affiché. L'enfant doit être au courant de cela. Les parents aussi doivent être au courant de cela. De façon à ce que chacun puisse agir conformément au règlement de l'école. Mais si les parents ne se sentent pas vraiment intéressés par l'école de son enfant, ils doivent se comporter d'une manière ou d'une autre et dans le sens toujours négatif. C'est ce qu'il faut nécessairement que nous puissions plaindre.
Et qu'il faut, les parents qui nous suivent, ils doivent comprendre d'abord que l'école de son enfant, c'est son école. Et il doit accompagner son enfant. Mais il doit le faire en tenant compte de l'âge de son enfant. L'enfant qui est à l'école primaire, tout se comprend et s'assimile au niveau de la classe. L'enfant qui est à l'école secondaire, il a déjà atteint un certain niveau où il doit préparer ses leçons, il peut les préparer seul, il peut les préparer avec les autres. Il faut l'encourager à discuter avec ses amis. La discussion est importante parce qu'on a toujours dit que la discussion jaillit la lumière. L'enfant peut mieux comprendre lorsqu'il est avec ses amis parce qu'il trouve que son enseignant est à un certain niveau supérieur. Ou soit, il y a des enfants qui ne peuvent comprendre les cours qu'après une année. Même si vous organisez des séances de prière, ils ne comprennent pas que les cours après une année. Alors, il faut voir dans quelles conditions il faut se situer par rapport à cet enfant-là.
Voilà. Merci, merci Jean-Paul Yaoudi pour avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes expert en éducation et là vous intervenez à partir de la province du Ouandoundou. Merci, à la prochaine.